Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Les 24 et 26 novembre prochains auront lieu les élections du futur bâtonnier de Paris ainsi que des membres du Conseil de l'Ordre. Alors vous le savez, Fleur d'Avocat n'est pas un podcast dédié au petit monde des avocats qui gravitent autour des institutions représentatives, mais le fait est qu'à Paris, seul un avocat sur quatre vote aux élections ordinales. Et il me semble que c'est peu pour le représentant de la moitié des avocats de France, et une personnalité d'ailleurs qui pèse aussi au Conseil national des barreaux, qui représente, lui, tous les avocats de France. Donc je connais, j'entends et je partage bon nombre des critiques faites aux institutions représentatives de la profession, en particulier celles faites au barreau de Paris, qui est le barreau auquel j'ai moi-même été inscrite. Mais j'ai tout de même envie de croire qu'il est plus facile de demander des comptes aux élus sur leur travail quand ils ont été élus par un nombre conséquent d'électeurs. Pour vous encourager à voter donc, et peut-être même pour vous aider, puisque je conçois qu'il puisse être difficile de se faire une idée quand on ne connaît pas les candidats, eh bien je vous propose de les rencontrer dans une interview à la sauce Fleur d'Avocat. Difficile d'éluder complètement des propos plus généraux relevant de la campagne, puisque ça fait quand même partie d'eux et de leur vision de la profession. Néanmoins, ils ont tous joué le jeu de parler d'eux et de leur parcours avec, il me semble, beaucoup de sincérité. Aujourd'hui, place aux interviews de Julie Couturier et de Clotilde Lepetit. Julie est avocate au barreau de Paris depuis 1995 et elle pratique le droit de l'exécution et de l'immobilier. Ancienne membre du Conseil de l'Ordre, elle est aujourd'hui candidate à la fonction de bâtonnière du barreau de Paris aux côtés de Vincent Nuret. Clotilde est avocate au barreau de Paris depuis 2005, ancienne secrétaire de la conférence, ancien membre du Conseil de l'Ordre et aussi ancien membre du CNB. Elle pratique le droit pénal des affaires et le droit pénal de l'environnement et se présente comme vice-bâtonnière auprès de Xavier Autain. J'espère que ces interviews vous plairont et surtout, si vous êtes inscrit au barreau de Paris, eh bien, votez pour qui vous voulez, mais votez. Un grand merci à Tim Afredo pour son avis sur Apple Podcasts et je lui envoie d'ailleurs plein de force et de courage pour la reconversion de policier vers avocat qu'il entame et qui s'annonce encore un petit peu longue. Mais on s'accroche, et on s'accroche notamment en écoutant des interviews de Fleur d'Avocat. Vous aussi qui écoutez le podcast, laissez des étoiles et un avis pour dorloter la visibilité de Fleur d'Avocat sur les plateformes de distribution. Je vous en suis reconnaissante. Une très bonne écoute, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Julie Couturier.
Bonjour Lilia.
Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat.
Merci à vous de me recevoir.
Alors, Julie, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate.
Ah. Alors, j'ai presque honte de le dire, ce n'était pas une vocation. Je sais que les avocats disent beaucoup que c'était leur vocation, que c'est ce à quoi ils pensaient quand ils étaient petits, etc. Moi, c'est pas mon cas.
Ouais, mais je vous rassure, la majorité des personnes sur ce podcast ne sont pas venues à l'avocature par vocation d'enfant. Donc tout va bien.
Moi, j'ai pas d'avocat dans ma famille du tout. Mes parents ont tous les deux été publicitaires. Mon père clairement créatif publicitaire et ma mère aussi dans un milieu de presse et de pub. Donc moi, c'est vrai que ma vocation, c'était plutôt de faire de la communication. J'appuie les guillemets même à l'oral parce que la communication, ça veut tout dire et rien dire. Et surtout que quand j'ai eu mon bac, les études de communication à l'époque, c'était un éventuel DEUG ou une formation dans des écoles qui ne donnait pas forcément énormément beaucoup de débouchés. Et surtout, il fallait être sûr de son coup, c'est-à-dire qu'il fallait absolument être certain à 17 ans que on voulait faire ça. Donc mon choix a été prudent et de faire un cursus un peu plus classique et un peu plus large qui me permettrait de réfléchir et à terme de bifurquer éventuellement vers Sciences Po, éventuellement vers des études, je pensais au CELSA, c'est le CELSA que je cherche depuis tout à l'heure comme nom, d'école. Voilà. Mais en tout cas, j'ai commencé le droit comme ça en me disant que c'était une situation transitoire. Et puis, comme beaucoup, on cherche un peu des groupes, des familles. Et c'est vrai que forcément, à la fac, on se fait tout un tas de copains. Et puis surtout, j'ai eu des profs absolument magiques à Paris 1. J'ai eu Robert Badinter comme prof en licence qui m'a enseigné les institutions judiciaires. Et en maîtrise, Jean-Denis Bredin, qui enseignait la procédure civile. Et je pense qu'il est vraiment très largement à l'origine de mon goût prononcé pour la procédure civile, parce que quand vous apprenez les principes directeurs du procès avec le charme, la limpidité, l'intelligence de Jean-Denis Bredin, c'est tout de suite plus facile et ça passe tout de suite plus facilement. Et je l'ai retrouvé donc maintenant on dit Master 2, mais à l'époque DEA de droit privé général, où j'ai évidemment sauté sur le séminaire qu'il animait là aussi en procédure civile.
Donc en fait, entre les deux, c'est passé que le droit, on y arrive parce que ça mène à tout. Et puis finalement, un gros coup de cœur intellectuel.
Oui, oui. Alors j'ai essayé d'aller voir ailleurs dans la mesure où toutes mes études, tous les stages que j'ai faits au mois de septembre, je les ai faits absolument partout ailleurs que dans le droit. C'est-à-dire que j'ai cherché quand même cette fameuse voie de la communication. Donc j'ai fait de la production radio, j'ai fait du journalisme dans un journal à l'époque qui s'appelait 7 à Paris, qui était un journal du groupe Philippe Paquis, très sympa. Et voilà, et j'ai fait des piges. Voilà, j'avais 20 ans et je faisais des piges dans ce journal. Et c'était
sur quoi ?
Sur plein de choses. J'ai le souvenir d'un article que j'étais très très fière parce qu'à l'époque on m'avait fait co-signer cet article alors que je devais avoir 19 ou 20 ans sur les fleuristes à Paris. Voilà, tous les jolis fleuristes qu'il y avait à l'époque, les Christian Tortue, c'était le début de Dany au nom de la rose, tous ces gens-là. Donc j'ai le souvenir de ça, c'était des choses assez futiles mais qui nécessitaient un petit travail d'enquête et c'était évidemment assez récréatif et assez sympa.
Donc radio, journal.
Voilà, grosso modo c'est à peu près ça et puis après je suis redevenue entre guillemets plus sérieuse et puis surtout j'ai aimé le droit quoi. C'est vrai que c'est une forme d'esprit qui me va. Je suis un tout petit peu cartésienne, ça c'est la façon positive de le dire, la façon négative c'est psychorigide obsessionnelle et donc c'est une forme d'esprit qui me va. J'ai fait mes études avec une bonne amie avec laquelle on est resté encore très proche aujourd'hui, qui s'appelle Elisa, et Elisa elle a 20 ans de plus que moi, elle a repris des études sur le tard et après avoir fait un DESS de psychopathoclinique, avoir élevé ses enfants, avoir exercé en clinique, etc. Et on a été là-dessus très complémentaires parce que elle me disait, il faut que tu m'expliques parce que je ne comprends pas la vache meuble et la vache immeuble. C'était la question des immeubles par destination, etc. Et voilà. Et donc elle m'a obligée à me poser des questions sur la règle de droit et le pourquoi de la règle de droit que je ne me posais sans doute pas suffisamment. Et moi, je lui apportais mon côté presque un peu trop scolaire avec mes fiches et mes fiches de fiches dont elle se moque encore aujourd'hui. Voilà, ça c'est juste pour l'anecdote, mais c'est pour vous dire que la forme d'esprit me va pas mal.
Et du coup, à la fin de ces études de droit, DEA, procédure civile, etc., droit privé, vous pensiez avocature, vous avez envisagé d'autres voies dans le monde du droit, qu'est-ce que...
Alors j'ai envisagé l'enseignement. Parce que j'aime ça, j'aime expliquer, d'ailleurs je continue à faire beaucoup de formations encore maintenant. J'étais inscrite en thèse avec le professeur Geneviève Vinet.
Très chic.
Et je n'ai pas poursuivi, alors je me suis quand même donné quelques chances et quelques temps, mais ça n'a pas été au bout puisque j'avais reporté en fait mon année d'école, j'avais eu mon CRFPA à la fin de la maîtrise, j'avais reporté mon année d'école le temps de faire mon troisième cycle. Et après, il a fallu quand même que j'aille à l'école d'avocat. Et à l'école d'avocat, évidemment, j'ai été emportée par la vague de rencontrer tous ceux qui allaient devenir mes confrères, tous ceux qui l'étaient déjà et qui nous enseignaient. Et surtout, je suis tombée dans une marmite dont je suis jamais complètement sortie, qui est la marmite de l'UJIA. Puisque j'avais un copain de série qui se faisait élire délégué prestagiaire à la commission permanente de l'UJIA et qui nous a embarqué, une autre copine et moi, au congrès qui se tenait cette année-là, le congrès annuel de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats à Paris. Et donc on est allé filer un coup de main et on n'en est jamais sorti. C'est-à-dire qu'on a à ce moment-là rencontré tous ceux qui sont devenus un peu nos modèles, nos parrains professionnels, professionnels avec lesquels on est encore, enfin avec lesquels moi je suis encore amie évidemment aujourd'hui.
Et avant de rejoindre l'école des avocats, est-ce que vous aviez fait des stages ou des expériences en cabinet ?
Alors très peu en fait, très peu. J'ai commencé à faire des stages juste après avoir eu l'examen, puisque j'ai rencontré un prof quand j'ai fait une prépa au concours d'entrée à l'école d'avocats, qui est le premier avocat à m'avoir fait travailler, qui s'appelle Olivier Pardot. Il enseignait donc dans cette prépa. Et quand j'ai eu besoin pendant mon DEA d'un boulot d'appoint, je suis allée le voir. Moi, encore une fois, je ne connaissais pas d'avocat, en lui disant voilà, j'ai besoin de bosser un peu là à côté de mon DEA. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Et donc, il m'a fait travailler au dossier. Et ça a commencé comme ça. Voilà.
Et pourquoi vous êtes allée le voir lui ?
Parce que c'était le seul avocat que je connaissais.
C'était le seul avocat qui vous enseignait dans le cadre de la prépa ?
Oui, non, pas le seul, mais c'est vrai qu'il avait, et il a toujours, parce que là aussi, c'est quand même des belles fidélités, on reste proches, mais il avait une forme d'esprit, lui, il avait fait Sciences Po, il avait été magistrat avant de devenir avocat, il est devenu avocat, et il avait une méthode d'apprentissage sur les idées juridiques, notamment sur le contrat, il dit de toute façon, il faut toujours structurer entre d'un côté l'autonomie de la volonté, de l'autre côté la sécurité juridique, donc vous étiez jamais paumé quand il fallait faire un plan, construire un devoir, etc. Donc c'était une forme d'esprit qui était très, peut-être moins académique que ce à quoi la fac nous avait habitués. Donc ça c'était assez séduisant et c'était du coup un vrai goût de la transmission et de l'apprentissage.
Donc parmi les quelques avocats que vous aviez croisés sur votre parcours et qui vous avaient inspiré, il y a lui, donc vous avez apprécié la forme de transmission et d'esprit et donc vous vous êtes adressé à lui. Et il se trouve que... Il vous a fait bosser au dossier.
Exactement. Enfin, c'est-à-dire que oui, comme je vous dis, mon réflexe, il m'avait vu travailler pour la préparation de cet examen. Et bon, je devais avoir effectivement quand même quelques relations avocats, copains des parents ou parents de copines de fac, etc. Mais cela étant, oui, le réflexe a été évidemment d'aller le voir lui. Ouais.
Et du coup, ces dossiers ?
Alors ces dossiers, j'en ai plus véritablement de souvenirs. Ce que je sais, c'est que ça m'a permis de rencontrer un autre avocat qui est devenu mon premier patron avec lequel il travaillait, puisqu'ils étaient dans les mêmes locaux à l'époque, qui s'appelait Joseph Roubache, qui est un monsieur que j'ai beaucoup aimé, qui est mort cet été, et qui était un avocat assez emblématique d'un palais un peu traditionnel, mais lui aussi avec un vrai goût de la transmission, qui était un vrai avocat, alors civiliste hein, aussi, puisqu'il avait beaucoup de dossiers immobiliers en promotion, etc. Mais j'ai fait mes premières armes dans ce cabinet, dans lequel il y avait Joseph Roubache et une femme aussi que j'aime beaucoup, encore maintenant, qui est Elisabeth Moirombro, qui, elle, a été avocat, est devenue magistrat et maintenant est secrétaire de la MIPROF, la mission interministérielle. Je ne saurais vous dire quelles sont exactement toutes les lettres de l'acronyme, mais c'est la protection des femmes, voilà, exactement. Okay.
Et vous dites premier patron, est-ce que, parce que du coup, vous avez passé l'école, c'était déjà l'époque de 2 fois 6 mois, c'était l'époque de deux ans.
Alors c'était un stage de 6 mois en cabinet, et je l'ai fait effectivement au cabinet de Joseph Roubache et d'Elisabeth Moirombro, et ils m'ont gardé ensuite en collaboration à mi-temps, c'était ma première année d'exercice professionnel, pour que je puisse justement essayer de faire ma thèse l'autre moitié du temps. Ça a été une année absolument catastrophique parce que du coup, je n'ai rien fait bien. C'est-à-dire que ce n'est pas un métier qu'on peut exercer à mi-temps. Vous qui l'avez exercé, je pense que vous avez dû vous en apercevoir. C'est un métier qu'on ne fait pas à mi-temps. Et la thèse, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on fait à mi-temps. Je pense que c'est un vrai sacerdoce et qu'il faut accepter, en effet, de s'enfermer pendant 3 ans avec une vraie discipline que je n'avais pas ou que je n'étais plus capable d'avoir sans doute parce que justement, j'étais tombée dans la marmite
de la
UJA et de la pratique et des copains et de l'engagement déjà un petit peu des sujets professionnels. Voilà.
Ouais, donc là, vous aviez déjà un agenda tripartite avec soi-disant la thèse, mais on comprend que voilà, l'exercice en première collaboration et puis l'engagement avec l'UJA dès le départ, dès l'école en fait.
Absolument.
Et du coup, comment ça se passe cette année en tri-teinte ?
Alors, je vous dis pas extrêmement bien parce qu'en fait, pas extrêmement bien et pas de façon très satisfaisante parce que j'ai le sentiment que le cabinet me voit partir. En plus de ça, c'était un mi-temps qui était organisé. C'était, j'allais au cabinet tous les matins et j'étais censée en partir à l'heure du déjeuner. Donc le cabinet a un collaborateur qui est là le matin mais qui se barre à 13h. Bon, forcément, si on a besoin de vous à l'après-midi, ben, vous n'êtes pas là. Donc c'est, je pense, un peu frustrant pour le cabinet. Moi, j'étais censée aller soit chez moi, soit à la bibliothèque pour travailler ma thèse. Et en réalité, j'allais à l'époque au local de l'UJIA travailler sur différents sujets qu'on avait à voir professionnels. Bon, donc du coup, la grande culpabilité de pas du tout avancer sur la thèse. Voilà, donc ça ne pouvait pas durer de toute façon et ça n'a effectivement duré qu'un an pile poil.
Et à la fin de cette année ?
Alors à la fin de cette année, j'ai décidé de donner une chance à la thèse, c'est-à-dire que je n'ai plus cherché de collaboration. J'ai essayé pendant quelques mois vraiment de me consacrer à la thèse.
C'était quoi votre sujet de thèse ?
C'était sur l'aléa thérapeutique. Non, pardon, je vous dis une bêtise. C'était but thérapeutique et responsabilité médicale.
D'accord, intéressant.
Voilà. Ouais. Sujet, vrai sujet de responsabilité. Et voilà, voilà, c'est mon seul regret en fait, c'est d'avoir, je pense là-dessus, gâché entre guillemets une chance de travailler plus longtemps avec Geneviève Vinet qui est une femme absolument, le souvenir que j'en ai, très extraordinaire et formidable, enseignante, remettant sans cesse l'ouvrage sur le métier, ce qui n'est pas le cas de tous les profs. Certains vivent un peu sur leurs acquis, et elle continuait à travailler avec cet amour du droit qui était très communicatif.
Et donc, vous avez essayé de vous remettre dans ce sujet pendant quelques mois.
J'ai essayé de me remettre dans ce sujet en enseignant en parallèle pour quand même un peu gagner ma vie. Et puis c'était, enfin, je veux dire, le verre était dans le fruit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais mis un demi-doigt dans la pratique et dans la profession, c'était fini. Donc voilà, cette tentative s'est soldée par un échec. Et au bout de 6-8 mois, j'ai recherché, enfin même pas. Oui, c'est ça. Je me suis donné, je pense, l'été pour réfléchir et j'ai recherché tout début septembre une collaboration pour me remettre au boulot, quoi.
Pourquoi est-ce que le verre était dans le fruit ? Dans le sens, qu'est-ce qui vous manquait quand vous étiez en thèse de la profession ?
Les autres, je crois. Je crois les autres. Parce que la thèse, c'est un travail extrêmement solitaire. Et à partir du moment où vous avez touché cette vie très collective de la profession et du paraprofessionnel que j'ai en effet plus jamais quitté, c'est-à-dire l'engagement associatif, syndical, vous êtes avec les autres. Et la thèse, vous êtes tout seul. Donc je crois que c'est ça qui a été déterminant dans la nécessité pour moi de faire le deuil de cette thèse.
Donc, ouais, vraiment, l'activité, le fait de travailler avec les confrères, etc.,
ouais.
Que ce soit peut-être sur des dossiers et que ce soit en parallèle sur l'activité syndicale, plus finalement que le fait de manipuler le droit de manière pratique dans des dossiers.
Oui.
Mais il n'y a pas de mal, hein. C'est...
Mais je pense oui, d'accord. Ce qui m'a manqué, vraiment, enfin voilà, en y réfléchissant, en vous écoutant, je pense que oui, ce qui me manquait dans enfin voilà, ce qui ne m'a pas plu en fait dans ce travail, c'est le caractère solitaire de ce travail.
Et quels étaient les combats de l'UJIA à cette époque ? Tous.
Non, j'ai envie de vous dire les mêmes qu'aujourd'hui, oui et non. Moi,
c'est dramatique.
Alors non, parce que justement, les choses ont quand même assez considérablement progressé. Je pense aux problématiques de collaboration, de maternité. Il y a eu énormément d'acquis. D'abord, l'UJIA s'est pas mal aussi structuré au fil des années. Il y a notamment sur la défense des collaborateurs. C'était beaucoup plus empirique à notre époque. Ce qui a été fait ces dernières années, ce service SOS collaborateur, qui est un vrai service au service des jeunes avocats, de relecture de CV et de défense vraiment devant les commissions de l'ordre. En fait, l'UJIA, elle a grandi un peu en même temps que l'ordre. C'est-à-dire que de la même façon, je pense qu'à l'ordre, la gestion des conflits, que ce soit entre les associés ou entre les cabinets et les collaborateurs, n'était peut-être pas aussi structurée qu'elle l'est maintenant. Et l'UJIA a un peu grandi en parallèle de cette évolution de l'ordre. Et elle s'est elle aussi structurée. Et il y a cette structure SOS collaborateur qui fait un vrai énorme boulot. de défense. On a des confrères qui prennent des dossiers et qui les prennent comme des vrais dossiers qu'ils pourraient avoir pour leur cabinet. C'est la défense de quelqu'un où on fait du droit, où on rend des écritures, où voilà, c'est un vrai travail.
Ouais, ils ont fêté leurs 20 ou 25 ans de service SOS collaborateur et ils ont postulé au trophée du pro bono.
Absolument.
Je ne sais pas si les trophées se sont tenus déjà.
Demain soir.
C'est demain soir.
Ouais.
D'accord. Vous voyez comme je suis pas du tout au courant de ce qui se passe. Bon, en tout cas, j'avais relayé parce que c'est vrai que c'est quand même un service assez exceptionnel au service des confrères. Et vous
Et bénévole. C'est important bénévole. De le dire parce que on a aussi entendu beaucoup d'autres personnes revendiquer la défense des collaborateurs, mais là, c'est bénévole.
Et vous, qu'est-ce qui fait que déjà à l'école des avocats, alors vous dites que vous avez été embarqué à un congrès et puis en fait là vous avez été, qu'est-ce qui fait que si jeune en fait, à peine, même pas en ayant exercé et en ayant déjà des attaches avec l'exercice de la profession, vous embrassez cet aspect syndical et...
Alors là aussi, je pense que c'est les autres qui m'y amènent. De la même façon que j'avais pas forcément la vocation, j'avais pas forcément non plus une âme de militante. En revanche, j'étais à l'école comme tout le monde. Comme tout le monde, je trouvais que ce qu'on nous y enseignait était moyennement intéressant et surtout pas tellement pratique et qu'on n'avait pas ce sentiment d'appartenance. Il y avait des choses évidemment de qualité, mais on sentait aussi qu'il y avait, on peut le dire, quelques enseignants qui n'avaient plus vraiment de cabinet, qui venaient là pour un peu gagner leur vie, qui recyclaient d'année en année des enseignements qui étaient d'une qualité discutable. Et c'est vrai que du coup, croisant tout un tas de jeunes avocats à qui je faisais part de ça,
m'ont
dit...
Vous les croisiez où ?
Je les ai croisés donc pour la première fois à ce fameux congrès de la FNUJA de Paris. Voilà. Et donc, en discutant avec tous ces gens, je me disais, mais viens travailler. Il y a eu un autre élément déterminant, je devrais le dire, là aussi, j'ai un peu honte, mais c'est pas grave, c'est la revue, c'est-à-dire que moi, j'adore chanter, et que quand, donc, j'ai fait la connaissance de mes camarades de l'UJA, on m'a dit, il y a un truc très sympa, c'est la revue de l'UJA, c'est un spectacle satirique de la vie judiciaire et politique qui se tient tous les ans, c'est une alternance de sketchs et de chansons. Les acteurs et chanteurs sont tous avocats. Il n'y a que le metteur en scène et les musiciens qui soient des vrais professionnels. Mais viens, c'est dans un mois, viens. Et j'ai donc fait ma première revue de l'UJA en étant élève avocat avec une amie avec laquelle on avait fait Nous sommes deux sœurs jumelles, les demoiselles de Rochefort, en jouant un peu les fausses ingénues. Voilà, nous sommes de prestagiaires à la conquête du barreau, nous cherchons un patron très très beau. C'était hautement intellectuel, mais c'était assez drôle. Et ça, c'est vrai que c'est des lieux de convivialité et de rencontres de confrères et d'avocats. Ça a l'air en effet un peu futile comme ça, c'est pour ça que je disais que j'avais un peu honte, mais en réalité non, parce que c'est la construction d'amitié qui reste encore là 25 ans plus tard, donc
et qui
jalonne un parcours, voilà,
ancre quelqu'un dans un parcours professionnel,
exactement.
Je précise que en expliquant à Julie comment tenir son micro tout à l'heure, elle m'a dit oh mais j'ai une grande expérience de la revue de l'UJA.
Exactement.
Ce micro ne m'impressionne pas du tout.
C'est pas ça, mais c'est oui. Je sais qu'il faut être prêt.
Donc, je comprends quand même que vous attaquez cette profession d'avocat avec une collaboration à mi-temps qui termine un petit peu nulle part, une semi-année dédiée à cette thèse qui termine à nouveau un peu dans le mur et vous revenez à l'attaque pour trouver une nouvelle collaboration. Comment ça se passe à ce moment-là ?
Ce que vous dites est intéressant parce que, en tout cas, ça dit une chose, c'est que les jeunes avocats ne doivent pas se décourager si ça ne marche pas du premier coup. Parce que, enfin, je pense que je suis un exemple de ça. C'est que les débuts ont quand même été un peu chaotiques. En tout cas, cette première année et demie de flottement entre la thèse, pas la thèse, etc., aurait pu me décourager. Et bon, 25 ans plus tard.
Vous vous sentiez comment quand même ?
Oh, je me sentais mal parce que je me sentais pas du tout, je me sentais pas à la hauteur. Je me demandais si cette profession était faite pour moi. Bon, c'est oui. Enfin, je pense que là, j'en parle évidemment avec recul, presque tendresse et un peu d'humour. Mais oui, c'est un premier sentiment d'échec qui est pas extrêmement agréable. Globalement, pendant mes études, tout s'était plutôt bien passé. Bon, et puis là, je me lance dans cette aventure de la thèse. Le temps de réaliser qu'en réalité, c'était pas véritablement fait pour moi. Bon, c'est un petit sentiment d'échec. On fait le deuil et on s'en remet très bien.
On patauge un peu, quoi.
Voilà. Mais du coup, quand on reprend une collaboration, comme ça a été mon cas, après cette année et demie de flottement, cette première année de collaboration à mi-temps, dans laquelle on ne se sent pas vraiment complètement bien, c'est vrai que c'est pas, on redoute un peu en se disant bon, faut pas que je me loupe la deuxième fois, quoi.
Et d'ailleurs, ça s'était terminé comment avec vos premiers patrons cette année
Pas si mal. Je crois qu'on a fait le constat commun que ça n'allait pas. Je pense qu'eux n'étaient pas satisfaits parce qu'avoir quelqu'un qui vient le matin et pas l'après-midi, finalement, même s'ils n'étaient pas prêts à investir plus, je pense que c'était pas satisfaisant pour eux. Voilà, je crois qu'on a fait... Le souvenir que j'en ai, mais j'ai souvent tendance à garder que les meilleurs souvenirs, mais le souvenir que j'en ai, c'est qu'on a fait un constat commun que c'était satisfaisant ni pour eux ni pour moi. Et on est resté là encore... c'est des gens que... Enfin, voilà, Joseph, j'étais à son enterrement au mois de juillet... Et Elisabeth, on se voit toujours. Donc
vous n'êtes pas non plus partie dans une situation délicate qui fait que vous ne pouvez plus vous adresser à eux pour une recommandation ou quelque chose comme ça ?
Non, ce n'est pas le souvenir que j'en ai. Encore une fois, c'était il y a 25 ans.
Pour parler des souvenirs.
Mais ce n'est pas le souvenir que j'en ai. Non, ce n'est pas le souvenir que j'en ai. Mm. En revanche, c'est vrai que le fait d'avoir développé ce réseau UJA, ce qui était à l'époque évidemment pas du tout intéressé ou dans un but justement de faire du réseau, m'a aidé ensuite, et notamment pour trouver une nouvelle collaboration.
Et donc c'est ce que j'allais dire, c'est ça qui vous a aidé à trouver une nouvelle collaboration ?
Oui, ça c'est aussi une anecdote que je raconte, parce que quand je me suis remise à chercher une collaboration, j'ai vu une annonce d'un cabinet qui s'appelait à l'époque Fischer, Tandeau de Marsac, Gros et Associés. Et j'envoie mon CV à ce cabinet et je reçois très vite un coup de fil de Sylvestre Tandeau de Marsac qui me convoque à un entretien d'embauche. Bon. Et là, je commence presque à me la péter en me disant, voilà, j'envoie mon premier cabinet dans lequel j'envoie mon CV, je suis tout de suite reçue, vraiment, c'est super.
Mon parcours est extraordinaire, je suis
voilà, irrésistible. Bon, exactement. Enfin, non, j'ai jamais pensé ça, mais ça, c'est juste pour le storytelling. Mais et j'arrive dans le bureau de Sylvestre qui me dit, voilà, alors. Philippe Cohen nous a envoyé votre CV. voilà, Philippe Cohen, ancien président de l'UJA, ami très proche. Bon, donc je dis bon, redescends ma fille. c'est pas bon.
C'est le réseau qui a parlé.
Exactement. Et de fait, j'ai été embauchée. Vraisemblablement que ça aussi, ça a joué. Quand même, c'est-à-dire que je pense que quand il en reste deux à la fin, on choisit plutôt celui qui est recommandé que celui qui ne l'est pas. Et j'ai passé 20 ans dans ce cabinet.
Cela étant, on recommande rarement quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Enfin, je veux dire, quand bien même il y a la revue et des capacités de champ exceptionnelles.
Non, mais bien sûr. Mais cela étant, après, c'est à celui qui est recommandé et embauché de faire ses preuves.
Et manifestement, les preuves ont été faites puisque 20 ans de collaboration.
Ah non, alors...
Non, mais je veux dire, oui, 20 ans de travail ensemble.
Exactement, 20 ans de travail ensemble. Alors, avec l'apprentissage vraiment pour le coup du métier. Quelle matière, justement, j'allais y venir, parce que ça fait partie du...
C'est le grand sujet.
Ça, c'est le grand sujet. En fait, Sylvestre de Marsac m'a expliqué que j'allais m'occuper d'un contentieux de recouvrement de crédit immobilier. que je remplaçais un collaborateur qui était peut-être, on va dire, un peu moins psychorigide que moi dans la gestion des dossiers. Et donc, je me suis retrouvée avec 200 dossiers de recouvrement de crédit immobilier, effectivement. Et donc, je lui ai posé la question en disant, mais la saisie immobilière, est-ce que ça tient beaucoup de place? Et un peu gênée, il me dit, oh, 30% de l'activité. Je dis, parce que moi, le souvenir que j'avais de l'enseignement de la saisie immobilière à la fac, c'était Philippe Gouachot qui avait présidé les tribunaux d'exception à Saïgon, donc c'était pas franchement ma came, hein, pour dire les choses clairement, et qui était un type avec les, il avait été juge d'ailleurs aussi, il était magistrat et il siégeait en saisie IMO, et qui était un type avec des grandes moustaches comme ça et avec
donc comme ça c'est recourbé sur le côté,
voilà. Et mon amie Elisa disait, enfin ça lui faisait penser à la chanson des Beatles, I'm the Walrus. Et donc voilà, donc c'était la grosse blague sur I'm the Walrus à chaque fois qu'on pensait à ce prof, voilà. Donc c'était le souvenir que j'avais de la saisie immobilière qui était pour moi donc forcément la matière la plus rébarbative qui soit. Et en réalité, je me suis retrouvée à apprendre sur le tas ce métier de la saisie immobilière, qui était en réalité, qui occupait non pas 30% de l'activité, mais 80% de l'activité. Mmh. Voilà.
Bon, mais là, vous avez pu mettre en pratique les enseignements en procédure civile.
Oui. Oui. Et puis, comme tout ce qu'on fait de façon un peu régulière, je m'y suis intéressée. Et comme j'ai mon âme, entre guillemets, de bon soldat, voilà, bon élève, qui veut que les trucs soient un peu carrés, du coup, oui, j'ai retroussé les manches.
Ce portefeuille de 200 dossiers a été réglé à la baguette.
Ouais, ouais, voilà. Alors, des années pas évidentes, parce que Sylvestre est un patron... j'ai envie de dire sévère mais juste, c'est-à-dire que c'est ma reconnaissance à cet homme est éternelle parce que il m'a vraiment appris mon métier formidablement et que voilà, je lui en suis très reconnaissante, mais il a un caractère qui n'est pas toujours facile, mais je crois qu'on a toujours su s'entendre parce que quand je faisais une connerie je le disais, j'ai jamais tellement caché les trucs, donc je pense que ça, du coup on a construit une relation de confiance là-dessus.
La relation de confiance sur la connerie, c'est pas mal.
Pas forcément que sur la connerie, heureusement.
Coup c'est aussi la confiance sur le reste.
Oui, voilà, exactement.
Et ça veut dire quoi, sévère mais juste, on a compris que juste dans le sens...
Ça veut dire que de temps en temps on se faisait engueuler parce que mais ça c'est pas fait, et ça c'est pas fait, et ça c'est pas fait. C'est-à-dire que de temps en temps, quand je suis moi dans ma relation avec mes collaborateurs maintenant, j'essaye de repenser à ça en disant sois pas trop dur parce qu'ils peuvent pas tout savoir et qu'à l'époque tu te disais que tu pouvais pas tout savoir. Donc j'essaye de temps en temps de me le dire quand je suis un peu speed, mais c'est vrai que donc oui, le caractère était pas toujours facile, mais l'enseignement toujours de qualité et voilà. Et puis de temps en temps, quand ça gueulait un peu trop fort, il savait revenir en disant bon, je me suis un peu énervée, mais c'est vrai qu'il faut quand même vérifier ça et ça. Bon. Mmh. Et c'est vrai que la connerie, quand on la fait une fois, en général, on la fait pas deux.
Oui.
Ouais, je touche du bois.
Ouais, exactement. J'espère que c'est du vrai bois. Bref. Est-ce que vous n'avez pas fait 20 ans de saisie immobilière à ces côtés-ci?
L'idée, c'est que oui, j'ai ayant remis, entre guillemets, un peu au carré ce contentieux, j'ai été associée, en fait, au bout de 7 ans.
D'accord.
Voilà, la question se posait, évidemment, au bout d'un certain nombre d'années de collaboration, de ce que serait mon avenir au cabinet. Et en fait assez naturellement, parce que moi j'ai joué vraiment la carte du cabinet, j'ai pas développé de clientèle perso, j'étais très investie dans ma collaboration, même si j'ai toujours continué à avoir à côté quelques activités associatives et syndicales, mais c'est vrai que du coup le mouvement s'est fait assez naturellement et ils m'ont proposé de m'associer et j'ai accepté, et ça a été des conditions très fermes. C'est-à-dire qu'effectivement il m'a donné entre guillemets le portefeuille de dossiers sur lequel je travaillais, à charge pour moi de développer un peu ce département des voies d'exécution.
Et vous avez commencé à en parler longtemps à l'avance, avant ces 7 ans, quand est-ce que vous avez commencé à Est-ce que c'est vous qui avez parlé des perspectives d'évolution? Est-ce que c'est lui qui vous en a parlé? Comment ça s'est un petit peu articulé,
alors,
cette montée en interne?
C'est pareil, parce que c'est relativement ancien maintenant, mais je crois me souvenir que c'était lui. Qu'on avait en effet un entretien d'éval ou un déjeuner d'éval. Enfin, on essayait quand même de faire le point un peu une fois par an sur l'état de la collaboration. Et je pense qu'au bout de 5-6 ans, il m'a demandé comment je voyais mon avenir au cabinet, comment je voyais mon avenir tout court en fait. Et assez naturellement, il m'a dit que oui, qu'effectivement, il pourrait y avoir une perspective d'association.
Et vous, donc, vous imaginiez votre avenir dans ce cabinet? Est-ce que vous aviez d'autres voies possibles d'imagination? D'autres choses qui vous attiraient? D'autres envies?
À part faire chanteuse de blues, non. Non, parce que c'est vrai que là aussi c'était une famille. Enfin, moi je fonctionne beaucoup, moi je suis fille unique, donc j'ai un peu tendance à m'inscrire entre guillemets dans des familles. Bon, et c'est pareil, le cabinet c'était une famille, c'est-à-dire qu'on est une génération de collaborateurs à avoir été recrutés dans les mêmes années et à avoir grandi ensemble. Donc il y avait aussi ça, c'est qu'on a évolué ensemble, on a été associés ensemble ou à quelques années d'intervalle. Et c'est pareil, on est encore restés proches. Je veux dire, on a encore un groupe WhatsApp de notre génération, alors que plus aucun de nous n'est au cabinet. Mais voilà, il y a eu aussi ce phénomène familial et de grandir ensemble.
Et quand donc vous avez pas du tout développé le clientèle personnel en parallèle?
Non.
Peut-être quelques dossiers à droite,
oui,
à gauche, la famille,
oui,
les amis,
oui,
qui ont besoin,
oui,
ponctuellement, mais pas... Et donc là, soudainement, vous vous retrouvez à la tête de ce portefeuille. Alors, sur le fond, ça ne change pas grand-chose parce que vous aviez déjà bien structuré la chose, mais avec du coup ce deal quand même de développer, du coup, parce que vous n'êtes plus collaboratrice mais associée. Comment ça se passe à ce moment-là, le changement de posture? Est-ce que...
Alors, compliqué pour plusieurs raisons. La première, parce que je pense que c'est assez compliqué de changer de... C'est pas tellement votre propre vision, mais c'est la vision des autres. C'est-à-dire que les autres... C'est compliqué de faire en sorte que les autres vous voient comme une associée. C'est pas complètement facile. Il se trouve que j'ai par ailleurs joué un peu de malchance parce qu'au bout d'un an, le portefeuille de dossiers dont j'avais la charge a été cédé à une petite boîte de recouvrement.
Oh non.
Qui nous a dit que voilà, qu'on n'avait pas démérité dans le traitement des dossiers et que tout allait parfaitement bien, mais que c'était la vie des affaires et que
meilleur deal.
Voilà, qu'effectivement ils avaient leurs propres avocats et que voilà, que c'était voilà, no hard feeling, mais voilà, bon. Et donc du jour au lendemain, ce qui, la première année de mon association, avait constitué 2/3 de mon chiffre, est sorti, pas de notre fait, hein, mais ça a été un fait. Donc, ça a été un peu difficile à vivre, entre guillemets, pour tout le monde, parce que mes associés se sont dit, tiens, bon, on l'a associé, c'est super, mais là, maintenant, on fait comment? Bon. Et puis, il a fallu, effectivement, reconstruire, et ça a été compliqué. Donc, c'est aussi des années où vous rasez un peu les murs en réunion d'associés, parce que le chiffre stagne un peu. Ça aussi, ça fait partie des leçons. C'est comme le début où tout n'est pas forcément facile. Bon, des crises dans des carrières d'avocats, on peut aussi en connaître. Tout n'est pas linéaire et on les surmonte.
Et du coup, vous, comment est-ce que vous avez géré cette situation? Alors déjà, de manière chronologique, avant même qu'au bout d'un an d'association, il y ait ce portefeuille qui s'évapore, qui s'enfuit, qui vous glisse des mains, il y a eu cette question de changement de posture, de changement de regard, comment ça s'est passé pour vous, en pratique?
Ça s'est passé que voilà, que j'ai bossé un peu comme une brute pour maintenir, que alors ça a correspondu aussi à un moment dans ces années-là, et puisque c'était, donc moi j'ai été associée le 1er janvier 2004, on a passé l'année 2005 à clôturer donc ces dossiers, puisque on a fait ça de façon un peu en biseau. Mais donc on a fermé au fur et à mesure les dossiers pour les transmettre. Et puis en fait, ma chance, entre guillemets, mais même si tout ça a mis du temps, c'est que la procédure de saisie immobilière a été réformée en 2006 et que je me suis aussi un peu lancée à corps perdu dans cette réforme.
Ça veut dire quoi, se lancer à corps perdu dans
cette réforme ? Ça veut dire analyser, décortiquer et du coup faire aussi pas mal de formations.
Vous formez ou formez les autres ?
Former les autres. Alors, j'ai une autre famille du palais, en dehors de l'UJIA, c'est Droit et Procédure.
D'accord.
Droit et Procédure, c'est une association dans laquelle je suis entrée en 2003. Grâce à des confrères, grâce à Antoine Gentil, grâce à Michel Bertin.
C'est de la cooptation ?
Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une association à laquelle on adhère. Il suffit d'avoir deux parrains. Donc c'est très facile. Il y entre, entre guillemets, qui veut. Il suffit de regarder dans l'annuaire de l'association.
Et de demander à être parrainé.
Voilà. Donc, moi, en l'occurrence, j'étais venue. Le souvenir que j'en ai, c'est que je suis venue assister à un de leurs colloques qui était à l'époque, je me souviens, sur le cautionnement. Et je suis tombée sur Antoine Gentil qui m'a dit « Ah, mais je vous connais, vous, je vous ai vu à la revue. mais vous devriez venir travailler avec nous. » Bon, donc j'ai adhéré à Droit aux procédures comme ça, ce qui était très cohérent avec mon association qui était en cours, avec ma pratique et avec la nécessité de m'ouvrir aussi un peu pour développer un peu d'autres choses. Et voilà, donc je suis entrée à Droit et procédures comme ça. Et puis de fil en aiguille, je suis entrée aussi au conseil d'administration de Droit et procédures.
Et donc beaucoup d'investissements dans Droit et procédures,
ouais.
Notamment via cet investissement dans la réforme de la saisie immobilière, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, exactement.
En 2006,
ouais.
Qui fait que vous vous êtes lancé dedans et vous avez proposé à Droit et Procédures de proposer des formations sur
le
sujet.
Et que c'est vrai qu'au fil du temps, parce qu'en plus de ça, il y a aussi une question un peu générationnelle, c'est-à-dire que c'est une matière qui a été beaucoup exercée par d'anciens avoués près le tribunal, donc une génération d'avocats qui maintenant est un peu en train de prendre sa retraite. Et c'est vrai que du coup, tous les copains, c'est une matière à laquelle les avocats ne veulent pas toucher, parce que si on n'en fait pas régulièrement, c'est hyper casse-gueule, il y a des délais, il y a des sanctions, c'est vraiment l'enfer. Donc c'est vrai que du coup, tous les copains avocats qui ne veulent pas toucher à ça sont assez prescripteurs. Et dans notre génération, on n'était pas 150 à en faire. Donc du coup, ça m'a permis aussi de développer un peu cette pratique-là et d'être identifié. Voilà. Et c'est aussi pour ça, et c'est vraiment pour ça qu'ensuite j'ai un peu développé cette logique de niche dans laquelle je suis, entre guillemets, complètement aujourd'hui, puisque c'est aussi la raison d'être de mon installation et du fait que j'ai monté mon cabinet. Mais à ce moment-là, justement, j'ai commencé vraiment ce travail d'identification, de creuser mon sillon, de me faire connaître sur cette matière, quoi.
Et ça a marché.
Et ça a marché. Alors
donc,
ça a mis du
deux,
temps.
Il y
a
eu quand même de transition.
Oui, il y a eu une petite traversée du désert. Oui, ouais. Quand même.
Combien la traversée du désert ?
Oh, 4-5 ans.
Ah, faut s'accrocher quand même. Hein.
Oui. Mm-hmm. Alors après, il y a toujours des choses. Hein, donc on arrive quand même à faire un peu de chiffres, etc. Mais
et du coup, pendant ce temps-là, est-ce que le cabinet a un petit peu subventionné ou est-ce que non, il fallait que vous rentriez du chiffre par ailleurs et du coup vous vous débrouillez.
Alors les deux, c'est-à-dire qu'en fait j'en ai rentré du chiffre, hein, bien sûr, parce que je me suis donné du mal et que globalement à aucun moment il n'a baissé. Il a stagné, mais à aucun moment il n'a baissé. Mais c'est vrai qu'il aurait dû augmenter à un moment et qu'il a mis du temps à réaugmenter. Le cabinet m'a non, subventionné, je dirais pas ça, mais soutenu, oui, a été entre guillemets patient, oui, ça c'est certain.
Non, mais je demande parce qu'il y a des deals j'en ai parlé et ça a été des deals d'association avec certains des invités de ce podcast. Je pense à Anne-Sophie Nourry et il y en a forcément d'autres, mais j'ai plus leur nom en tête. Où le deal c'était, on te donne X délai. Où tu as un peu de temps avant d'avoir tes objectifs de chiffres. Enfin, voilà, on accepte complètement que tu sois dans une démarche de développement. Ce que je comprends, c'est que ce n'était pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'il fallait quand même que le chiffre soit là, avec une tolérance pour le fait qu'il n'explose pas tout de suite, etc. Mais voilà, il y avait quand même des obligations de...
Oui, alors, Je faut pas que je sois ni injuste ni trop sévère, parce que globalement, à aucun moment on m'a mis un pistolet sur la tempe. Mais c'est vrai que je pense que c'est peut-être aussi la charge que je me suis mise moi.
C'est bien d'en parler, ouais.
Je pense que c'est les deux, mais je pense que c'est les deux parce que c'est vrai aussi qu'on m'a fait sentir que ce serait bien que ça augmente, même si tout le monde était parfaitement conscient du fait que j'y étais pour rien et que je faisais ce que je pouvais par ailleurs. Hein, donc, mais du coup, oui, ça a été des années un peu difficiles en termes de charge mentale, oui, de sentiment, de voilà. Donc
sentiment de.
De pas forcément être du coup légitime en fait. Les choses si je puis dire, retrouvent leur place. Et puis je pense que.
Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes accroché comme pendant 4-5 ans avec un sentiment un peu accroché de ça décolle pas, est-ce que je suis légitime, est-ce que je vais m'y retrouver, est-ce que. Hein, c'est... À quoi vous vous êtes accroché pendant ces années un petit peu difficiles dans le développement?
Au fait que. Je vais dire un truc assez prétentieux, mais c'est pas grave. Que je pense être une assez bonne professionnelle, en fait, et que je travaille bien. Donc, je me suis dit à un moment, forcément, ça va payer.
Vous avez eu confiance dans le fait que votre travail et oui, la qualité de votre travail.
Oui, c'est le travail. Oui. Voilà, c'est vraiment c'est le travail et c'est le travail.
Du coup, pendant cette transition, je suis désolée, j'insiste un peu, mais parce que comme j'ai pas mal de clients qui sont dans des perspectives de développement, etc., ça les intéresse beaucoup ces questions-là d'un point de vue pratique. Vous avez dit que vous mainteniez votre chiffre d'affaires, qu'en parallèle, vous vous êtes beaucoup investi dans cette réforme qui vous a donné beaucoup de visibilité et que c'est ça qui a construit votre expertise de niche, enfin, qui a contribué à renforcer, ouais. Avec bien évidemment tout le travail que vous aviez déjà fait par avant, mais qu'est-ce que les dossiers qui ont maintenu votre chiffre d'affaires quand même stable pendant ce temps-là, c'était des dossiers dans cette matière aussi ou c'était d'autres dossiers que vous traitiez parce que, voilà.
Alors, il y a eu un peu des deux. Je me suis un peu diversifiée quand même pendant cette période et notamment d'ailleurs grâce un peu au cabinet en droit des successions.
D'accord.
Auquel je suis venue par la vente judiciaire parce qu'en fait quand une succession se passe mal et qu'on va au partage judiciaire, on vend le bien aux enchères, c'est la licitation. Mmh. Et c'est une variante en fait de la saisie immobilière. Donc comme j'avais cette expertise de vente judiciaire, du coup, si je puis dire, j'ai remonté la filière des successions par la vente judiciaire. Donc à ce moment-là, j'ai diversifié un peu en faisant des successions. Voilà. Donc du coup, ça a permis de diversifier et de maintenir un peu, ouais.
Super. Et donc à un moment, percé.
Le travail. Alors non, payé. C'est pas ça. C'est qu'en fait j'ai eu la chance mais qui était aussi une chance,
une chance
conséquence est... ouais. Aussi de ce travail c'est que on est venu me proposer enfin un confrère est venu me proposer un contentieux pour un liquidateur judiciaire donc là aussi un contentieux de réalisation des actifs. Il se trouve que dans le cabinet qu'il traitait, ce contentieux était plus véritablement rentable et qu'il voulait couper la branche chez eux pour diverses raisons
stratégiques qui leur appartiennent.
Exactement. Bon.
Un confrère qui vient de droit et procédure.
Absolument.
De l'UGIA, de
droit et procédure. Ancien président de droit et procédure. Okay. Oui. Daniel Paquet. Et il m'a dit, écoute, voilà, nous, on va couper cette branche pour diverses raisons structurelles du cabinet, etc., etc. Parce que voilà, est-ce que ça t'intéresse ? Et évidemment, j'ai dit oui. Alors, c'est compliqué parce que comme c'est des dossiers dans lesquels, en fait, on est payé à la fin, c'est vrai qu'avec un cabinet un peu structuré, voilà, comme le nôtre, qui pouvait, entre guillemets, absorber ça et prendre le temps que la pompe s'amorce, si l'on peut dire. Mm-hmm. Mais on l'a fait. Et ça a été un moyen, effectivement, de relancer ça. C'est les années, par ailleurs, pendant lesquelles j'étais au Conseil de l'Ordre. Donc c'est vrai que j'ai le souvenir d'une année 2011 un peu
dense.
J'ai le sentiment d'avoir été un peu dans la centrifugeuse parce que effectivement la même année j'étais secrétaire du conseil, c'était ma dernière année de conseil et secrétaire du conseil c'est un peu le poste le plus proche du bâtonnier etc. Donc c'est un gros mi-temps et en même temps je me suis entre guillemets récupéré les 170 dossiers en question sur les genoux, ce qui était en même temps évidemment une très grande chance, mais il fallait les traiter bien.
Et ces 170 dossiers ça représentait quoi comme charge de travail? Que je comprenne ce à quoi vous avez dit oui quand vous avez dit oui. Et que les auditeurs comprennent au passage.
C'est difficile de vous dire en volume horaire, mais c'est vrai que j'ai mis plusieurs mois à absorber et à toucher en fait chacun de ces dossiers, à voir où il en était, à le ça a mis un an. Donc après en termes de volume horaire hebdomadaire ou mensuel, je suis incapable de vous dire, mais
donc ça veut dire que c'était quand même possible ces dossiers de les apprendre progressivement.
Oui,
enfin,
okay. Oui. Après bon, je vous dis, j'ai un peu eu le sentiment toute l'année de jongler avec des assiettes, mais bon, voilà. Après, c'est des expériences passionnantes des deux côtés, c'est-à-dire que l'expérience ordinale et secrétaire du conseil, ça a été une année absolument fabuleuse, et récupérer ce contentieux et donner satisfaction aux clients et remettre les choses entre guillemets au carré, c'est aussi très satisfaisant. Donc
on sent une grosse compétence dans le fait de prendre une grosse masse de travail et de faire de l'ordre dedans, non? Un petit côté Marie Kondo, un petit côté Marie Kondo de
dossier. Ah oui, j'avais pas pensé à ça, mais
j'arrive pas à croire que j'ai passé une chose pareille dans mon podcast. Alors, ouais, Julie peut témoigner que je n'ai pas du tout Marie Kondo chez moi.
C'est clean, hein. Mais j'ai pas vu l'intérieur de vos tiroirs.
Nous n'irons pas voir l'intérieur de mes tiroirs.
J'ai pas vu comment vous pliez les t-shirts à la verticale, mais voilà. Oui, non, oui. C'est-à-dire que, oui, je pense que j'ai une capacité de travail et d'organisation, mais voilà.
Et du coup, donc vous étiez au Conseil de l'Ordre à ce moment-là, ce qui implique une élection.
Ouais.
Ça a été première élection, première campagne, première élection. Comment ça s'est passé cette élection? D'où est-ce que vous veniez à ce moment-là?
Alors, en fait, j'ai dirigé la campagne d'un candidat au bâtonnat qui s'appelle Xavier Normand-Bodard en 2008.
Vous étiez encore famille UJA à ce moment-là?
J'étais famille UJA, j'étais famille droit et procédure. Xavier Normand-Bodard est un ancien président de droit et procédure. Et donc, assez naturellement, j'étais derrière lui. Alors, quand je dis aujourd'hui assez naturellement, oui, parce qu'on avait travaillé ensemble à droit et procédure, mais son compétiteur principal, qui était Jean Castelin, est invité permanent de l'UJA. Donc, on aurait pu aussi imaginer que...
Il y avait conflit de famille, c'est dur.
Alors, oui, mais en fait, finalement, je connaissais moins bien Jean. Je connaissais moins bien Jean, j'avais pas bossé avec lui alors que j'avais beaucoup bossé avec Xavier. Donc c'est vrai que, et puis je crois que quand Xavier s'est lancé, on savait pas que Jean se lançait. Enfin, je sais plus comment ça s'est passé d'ailleurs, parce que là aussi c'est un peu loin. Mais en tout cas, donc je dirige la campagne de Xavier, et la question se pose à un moment puisque l'UJA investit des candidats tous les ans pour le Conseil de l'Ordre, et la présidente de l'UJA de l'époque, Aurélie Berthet, me dit ce serait bien que t'y ailles. Bon, et je suis beaucoup poussée à l'époque aussi par Pierre-Olivier Sûr, qui était mon associé.
Donc dans ce cabinet
Absolument.
Okay.
C'est pour ça, le nom du cabinet a changé après, mais quand j'y suis entrée, il s'appelait pas Sûr, parce que Pierre-Olivier n'y était pas encore. Et Pierre-Olivier me dit, mais vas-y, il faut absolument que tu y ailles, et dans la roue de Xavier, parce que voilà, tu rentabilises, tu mutualises, comme ça tu fais campagne pour lui et pour toi, parce que comme de toute façon tu vas l'accompagner partout, autant que... Bon voilà, donc effectivement, j'ai eu pas mal de mal à prendre cette décision d'ailleurs.
Pourquoi?
Alors c'est comme le bâtonnat, j'ai bien compris que c'était pas le sujet du jour, mais enfin non, mais c'est vrai que
non, mais on peut pas non plus faire comme si ça n'existait
pas.
Non,
mais c'est vrai que sans faire bon, c'est ce que je dis beaucoup. Alors c'est une formule de style, mais en même temps pas tant que ça. Je pense que nous les filles, on n'y pense pas forcément en se rasant le matin, et qu'on a peut-être plus de mal à se mettre en avant. Voilà. Alors une fois que c'est lancé et on a la détermination qu'il faut, mais c'est pas si simple que ça. Et c'est vrai que à l'époque, je me suis dit, mais comment je vais faire, et les dossiers, et le cabinet, c'était aussi un peu comment on va pouvoir tout mener de front. Et puis finalement, ça a été une expérience absolument extraordinaire. Mais pour revenir au déroulement de la campagne, etc. Donc, je suis derrière Xavier. On était d'ailleurs, puisqu'on avait essayé de contrer la martingale électorale du vice-bâtonnier, puisque Jean Castelin et Jean-Yves Le Borgne se présentent en binôme, alors que ce n'était pas dans les textes, et vendent, entre guillemets, ce schéma nouveau du vice-bâtonnier. Et donc, nous, on dit, nous, de toute façon, on y va en équipe. Et on est plusieurs à se présenter au soutien de Xavier. Il y avait avec moi Hélène Poivet-Leclerc, Philippe Touzet, Hugues Le Tellier. Enfin, on était un certain nombre à être plutôt des soutiens de Xavier en disant, nous, on y va en équipe. Bon. Et l'élection se termine, que Jean Castelin gagne, que moi je suis élue très bien, puisque j'arrive numéro 1 en fait le soir des élections. Donc tout le monde dit, mais c'est formidable, tu vas être ton élection, etc. Et moi je pleure toutes les larmes de mon corps.
Et c'était pas de la joie.
Parce que non. Parce que voilà, pour moi, on était investi par le JA, on n'avait pas d'inquiétude pour notre propre élection, mais moi, c'est vrai que la campagne qui m'importait, c'était celle du bâtonnat, c'était celle de Xavier, j'étais, c'est quelque chose avec lequel c'est une anecdote qu'on s'amuse beaucoup à raconter avec Jean Castelin, soit tour à tour, soit c'est lui, soit c'est moi, mais pour dire à quel point j'ai pleuré le soir de mon élection et de la sienne, en me disant que non seulement mon héros n'était pas élu, mais qu'en plus de ça, j'allais faire un conseil de merde, parce que forcément, j'allais être au placard. Bon, et comme Jean Castelin est un homme intelligent et qui avait réussi à peu près à identifier ceux qui allaient bosser, d'abord, il m'a envoyé un très gentil mot le lendemain en disant je sais ta peine, mais t'inquiète pas, on va faire du bon boulot ensemble, ce que j'avais trouvé vraiment sympa. Et puis, en effet, on a fait du très bon boulot ensemble.
Bon, et puis, c'était un soutien de la famille Droit et Procédure, mais avec quand même un historique UJA derrière.
Oui,
donc,
Mais bien sûr.
Non, mais je comprends. Et ça fait un petit peu... c'est un petit peu Premier ministre, Président qui sont pas du... Il y a un petit côté... comment ça va se passer en pratique, sachant que je viens de vanter les mérites de l'autre
Après, bon, on est dans une logique de travail au sein du Conseil. Ça compte plus. C'est-à-dire qu'une fois que l'élection a eu lieu, vous avez un peu la boule dans la gorge pendant quelques jours, etc. Et puis après, vous dites, bon, de toute façon, on est là pour bosser, donc on y va, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Parce que c'est vrai que Jean Castelin est un homme qui sait faire travailler les autres ensemble, en les mettant en valeur, qui ne prend pas ombrage de les mettre en valeur, et du coup c'est très joyeux. Voilà.
Ça a été quoi vos chantiers à vous pendant ce mandat ?
Alors moi je me suis pas mal occupée, mais parce que ça c'est aussi mes chantiers à Droit et Procédure, de la relation avocat-magistrat, qui est un sujet qui me tient beaucoup à cœur.
Et d'actualité.
Oui, malheureusement encore d'actualité. C'est vrai que... Alors, c'est plus facile. Moi, c'est vrai que je me rends compte que j'ai un prisme un peu... Peut-être pas déformant, mais en tout cas, j'ai mon prisme qui est celui de la justice civile. Je pense évidemment qu'il est plus facile d'être civilisé au civil qu'au pénal, bien sûr. Mais c'est vrai qu'à Droit et Procédure, on a toujours eu cette culture-là. C'est-à-dire que nous, nos missions, c'est formation... sous-traitant entre guillemets de l'ordre sur toutes les procédures, sur toutes les réformes tenant à la procédure, et c'est les relations avocat-magistrat. Donc quand il y a des groupes de travail qui sont constitués par les chefs de juridiction, que ce soit tribunal ou cour, en général on envoie toujours un membre du conseil, mais souvent aussi un membre de Droit et Procédure pour un appui un peu technique sur les problématiques de procédure. Donc on a l'habitude d'aller dans ces groupes de travail. C'est des petites réformes, c'est pas forcément des choses, mais c'est des choses qui arrangent le quotidien. Pendant des années, on a eu, chaque chambre avait son propre modèle de bulletin de procédure. On leur a expliqué que ce serait sympa, mais qu'on aimerait bien avoir le même.
De toute façon, moi, c'est drôle puisque j'anime au lab de l'EFB un atelier sur la qualité de vie au travail. Je l'ai fait travailler sur les risques psychosociaux. Et j'ai eu un atelier, c'était le week-end dernier, et ils disent bon, mais ce qu'on propose, c'est pas particulièrement innovant, genre, c'est pas comme si ça n'existait pas, est-ce que c'est grave? Et je dis, non, non, c'est pas grave, parfois la simplicité, c'est vraiment très très bien.
Oui.
Et donc parfois, c'est ces petites choses d'harmonisation toute bête qui peuvent faire une grande différence pratique et il faut pas s'en priver, quoi.
Donc, on a rédigé des guides de bonnes pratiques, des protocoles, des... Bon, et... En fait, c'est par ce travail, c'est pour ça aussi qu'on propose ça dans le cadre de la campagne, c'est de revenir à ça, c'est-à-dire des choses assez simples, chambre par chambre. Pendant quelques années, ont existé et n'existent plus vraiment aujourd'hui ces groupes de travail, chambre par chambre, parce que c'est l'exemple que je cite souvent, et j'en fais pas moi du droit de la construction, mais c'est vrai que quand des praticiens avocats du droit de la construction parlent avec des magistrats praticiens du droit de la construction, c'est plus facile de se mettre d'accord sur, par exemple, une harmonisation des écritures en se disant qu'on va construire les conclusions des ordres par des ordres. On ne porte pas une atteinte inconsidérée à l'indépendance rédactionnelle de l'avocat. On peut se mettre d'accord sur quelques bonnes pratiques dans l'intérêt de nos pratiques respectives et surtout du justiciable quand même. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est faire ce travail qui consiste à se voir de façon régulière pour comprendre les contraintes mutuelles, parce que moi, dans ces groupes de travail, on avait toujours un dialogue assez direct hein, sur le fait qu'on leur expliquait que nous, on avait le client dans le dos. Donc oui, ils ont raison quand ils nous disent qu'il faut savoir faire la différence entre une prétention et un moyen et faire attention à la façon dont on rédige nos dispositifs, et on essaye de faire passer ces messages-là. Mais sur le reste, on leur explique aussi que sur la longueur des écritures, on a le client, que de temps en temps, c'est pas facile. Que, bon. Donc ça permet quand même d'avoir cet échange... du quotidien et de faire en sorte que les relations au quotidien soient plus fluides, quoi.
En tout cas, vous, ça a été plutôt vos axes de travail. Ça semble assez logique oui. Par rapport à...
Voilà, alors à l'ordre, effectivement, tout le monde fait un peu de tout, si je puis dire. C'est-à-dire que moi, à l'ordre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la commission collaboration que j'ai présidée, ce qui était assez naturel compte tenu de mon étiquette UJA. Voilà, et ça, c'est le moment à l'ordre où on se sent utile. Hein, parce que je peux vous dire qu'il y a des mardis après-midi où on se sent très inutile parce qu'on a aussi, dans les 42 membres du Conseil, beaucoup de gens qui s'écoutent et on est sur des débats un peu politiques et de temps en temps, on s'emmerde un peu. Mais en revanche, alors c'est pas systématiquement le cas et heureusement, il y a aussi quelques débats très passionnants au Conseil. Mais la commission collaboration, comme je crois, moi j'y ai jamais siégé, mais la commission de règlement des difficultés d'exercice en groupe, ces commissions qui se réunissent le soir, sont des commissions où là, on se sent... utile. D'abord, on apprend que tout n'est pas noir ou blanc, c'est-à-dire qu'on apprend à plus être manichéen. Il n'y a pas toujours un salaud de patron et un gentil collaborateur. Bon, moi j'étais arrivée ouais. En disant voilà, l'UJ1, le point levé, voilà, salaud de patron. On se rend compte que, évidemment, la réalité est beaucoup plus compliquée.
Dans ma première formation, que j'ai renommée kit de survie dans la profession d'avocat, le troisième module sur la communication, je fais le schéma, je schématise la connerie. Et c'est un schéma qui montre la dynamique tout à fait collaborative des situations conflictuelles. Et en général, ça détend un peu tout le monde de réfléchir à sa propre posture dans la situation conflictuelle.
Et c'est vrai que ces soirées qu'on passe juste en fait à écouter... Le patron qui parfois peut avoir un petit cabinet, il a pris un collaborateur et il a l'impression que le collaborateur se fout de sa gueule et bon, et puis à l'inverse, le collaborateur qui a le sentiment d'être complètement exploité, ce que je veux dire, c'est que ce travail-là d'écoute, alors que parfois les enjeux, notamment financiers, sont nuls. Mais il y a un enjeu d'écoute et d'affect et c'est vrai que le sentiment à la fin de ces soirées-là, qui sont souvent tardives, d'avoir fait en sorte que chacun des confrères ait eu le sentiment d'être écouté et puisse repartir, entre guillemets, sur le chemin d'un exercice un peu serein en ayant laissé ça derrière lui, là, on se sent un peu utile.
Mais alors, qu'est-ce qui fait... là, on sort un peu de votre parcours, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de collaborateurs qui ne saisissent pas l'ordre de leur conflit parce qu'ils partent du principe que de toute façon on leur donnera pas raison et surtout ils recevront pas d'appui et que c'est toujours les mêmes qui recevront
de l'appui et étonnamment plutôt les puissants et plutôt les associés. C'est quand même, en tout cas moi, des messages que je reçois et de ce dont je suis témoin. Et c'est vrai que j'échange beaucoup avec des collaborateurs. C'est quand même un petit peu le côté non mais ça sert à rien parce que de toute façon ils protègent toujours les mêmes et donc ça aboutira à rien. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin je veux dire, il y a quand même un, c'est un sujet dont j'avais parlé avec Julien Brochot qui est actuellement au Conseil de l'Ordre, mais il y a une grosse différence quand même entre cette perception externe et les retours que j'ai de Julien qui dit que non, que c'est utile. Vous avez l'air de dire que vous vous êtes senti très utile pendant ce moment-là. Donc,
alors, il y a d'abord une difficulté, c'est que je pense que les collaborateurs ne saisissent l'ordre que quand les conditions de la rupture se passent mal. C'est rare d'avoir un collaborateur qui va saisir l'ordre en cours de collaboration. Parce qu'on a peur des représailles, parce qu'on a peur de ce qui va se passer après, et c'est ça la vraie difficulté. Alors, c'est très utile d'avoir une écoute de l'ordre au moment où la rupture se passe pas bien, parce que là, de toute façon, il n'y a plus rien à perdre, entre guillemets.
Même à ce stade-là, hein, moi, des collaborateurs qui n'osent toujours pas à ce stade-là saisir l'ordre, y en a plein, parce qu'ils disent, ben non, après, il faut que je retrouve une collaboration, mais ouais. Ce sera difficile parce que mon patron va me pourrir.
Bah oui, mais ça c'est dommage. C'est dommage et c'est une fausse perception. Parce que là où il faut être très optimiste, c'est que, mais ça, bon, sans vivre dans le monde de oui-oui non plus, c'est que dans ces commissions-là, on arrive aussi à faire comprendre au, entre guillemets, patron qu'il a déconné. On en a vu, hein, des cabinets, des associés de cabinet dire ah bah oui, non, mais je me rendais pas compte. Et avoir une prise de conscience. Donc, il faut aussi avoir cet espoir-là. C'est-à-dire que cette prise de conscience, elle ne peut pas avoir lieu si le collaborateur ne l'amène pas là. J'entends hein, ce que vous dites sur le fait que beaucoup trop, sans doute, encore de collaborateurs n'osent pas saisir l'ordre. Mais je pense qu'ils devraient le faire. En tout cas, enfin, je comprends qu'ils ne le fassent pas.
Moi, c'est juste une curiosité sur ce décalage, en fait. Ce décalage entre le discours qu'on peut entendre des personnes qui sont impliquées politiquement, qui sont ou ont été au Conseil de l'Ordre, qui ont voilà, cette vue de l'intérieur, et ce ressenti de l'extérieur d'une inutilité, d'une non-assistance des collaborateurs et d'un système de collaboration qui, de toute façon, reste défavorable et reste, ne reste pas, n'évolue pas vers plus de protection là où, manifestement, il en faudrait plus. En tout cas, selon une demande quand même assez prégnante et assez collective qui voilà. Et donc, je suis extrêmement curieuse. C'est pas un sujet que j'ai adressé encore beaucoup plus, mais c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse de comprendre ce gap, en fait. Parce qu'il y a un gap qui est quand même assez énorme, quoi.
Mais alors, je pense qu'il existe ce gap là-dessus, mais il existe sur plein d'autres choses. C'est-à-dire que l'ordre, c'est quand même une assez belle maison où il y a énormément de choses qui sont réglées et qui sont bien réglées. Et c'est vrai qu'on a tendance beaucoup à voir que les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trains qui arrivent à l'heure. Et la collaboration et la gestion de la collaboration, c'est quelque chose qui marche bien. C'est-à-dire qu'il faudrait interroger en réalité les collaborateurs qui ont saisi l'ordre et les interroger sur leur perception. Encore une fois, moi, ça fait un moment que je suis sortie, mais c'est vrai que j'ai quand même le sentiment que un collaborateur qui saisit l'ordre se fait assister par un membre de SOS collaborateur pour y revenir et qui passe devant une commission du mercredi soir, la DEC de l'ordre. Alors, j'ai pas de.
Mais c'est votre sentiment qui est intéressant.
Non, mais j'ai pas. Enfin, en tout cas, mais je pense qu'il faudrait les interroger. Je suis pas sûre que beaucoup disent ça marche pas, c'est n'importe quoi. Je suis pas sûre de ça. C'est-à-dire que je pense que ceux qui disent on protège toujours les mêmes, c'est ceux qui n'y sont pas venus. Ceux qui y sont venus, à mon avis, mais encore une fois, je vous dis, ça fait un moment, je prends toutes les précautions qui s'imposent parce que je suis pas à leur place, doivent en principe avoir le sentiment que ça marche pas si mal, quoi.
Bon, en tout cas, vous, c'est des moments où vous vous êtes senti utile.
Ouais.
Et ce mandat se termine.
2011.
2011.
2011, ça finit par s'éclaircir dans votre pratique, dans votre cabinet. Vous terminez ce mandat à l'ordre. Ça fait maintenant une dizaine d'années que vous êtes avocat, un peu plus.
En 2011, oui, même un peu plus, parce que oui, ça fait 15 ans, ouais.
Quelle est comment vous vous sentez à ce moment-là?
Je me sens bien parce que j'ai le sentiment d'avoir fait un beau conseil, c'est-à-dire que j'ai le sentiment de ne pas être passé à côté de mon conseil, d'avoir fait les choses assez à fond, d'y avoir été très heureuse. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai eu très très peur de la nostalgie. Bon, moi je suis une pleureuse, donc je suis
Moi
assez.
aussi, je pleure beaucoup.
Voilà. Donc j'ai eu très peur de l'après, de la déprime post-conseil, parce que certains anciens membres du conseil me l'avaient promise, entre guillemets. Et en fait, non. C'est-à-dire que j'ai vécu le mois de décembre, le dernier mois de décembre, de façon assez émotionnelle, parce que le dernier dîner de ceci, le dernier dîner de cela, la commission ceci, enfin voilà, on se dit au revoir et moi j'aime pas les départs. Donc c'est vrai que j'ai vécu ce mois de décembre de façon assez émotionnelle, et notamment cette espèce de cérémonial au moment des élections où on salue les sortants, que Jean Castelin avait pas mal théâtralisé, etc. Donc là, oui, une vraie, vraie émotion. Le dîner de sortie du conseil, donc que je redoutais comme une bête, et au cours duquel j'avais d'ailleurs organisé pour la première fois une mini-revue des sortants, en hommage à Jean Castelin et Jean-Yves Le Borgne. Donc ça, c'était rigolo parce qu'il y avait tous les membres du conseil sortant qui avaient fait quelque chose, une chanson, un sketch, quelque chose pour Jean et Jean-Yves. Donc c'était assez rigolo de faire jouer et chanter des gens dont c'était alors pour le coup pas du tout la tendance naturelle, donc c'était assez marrant. Donc j'ai vécu tout ce moment-là de façon un peu émotionnelle, et j'ai eu un peu peur du premier mardi post. Et en fait, ça s'est très bien passé parce que ça a été un très grand soulagement de retrouver du temps, c'est-à-dire d'arrêter d'être dans cette tension permanente que j'avais à me lever tôt le
Tout le
matin,
temps.
voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc non, ça a été un grand bonheur de retrouver du temps, et du coup, j'ai pas eu cette nostalgie.
Qu'est-ce que vous avez fait de ce temps?
Alors, j'ai, j'allais dire, je l'ai réétendu, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pris plus le temps de faire les choses, et de remettre du coup ce nouveau contentieux que j'avais récupéré un peu au carré, un peu à jour, etc. Bon, cela dit, ça n'a pas duré très longtemps, parce que je dois quand même tout de suite dire que l'année suivante, je suis devenue présidente de droit et procédure, mais donc bon, on ne se refait pas non plus. Mais en tout cas, si, j'ai retrouvé un rythme un peu plus normal, et c'était tout à fait agréable.
Et une perspective de continuer à se voir comme avocat. Parce que
Ah oui.
je me dis que y a un peu des. J'imagine que ce sont des étapes où on se pose deux, trois questions, non?
Alors oui, mais moi ça m'a plutôt renforcée, d'abord parce que ça m'a appris à travailler. Moi je pense que c'est ce que m'a appris le conseil, justement, parce que, et notamment cette dernière année qui était très dense, c'est que quand vous êtes obligé de faire deux journées en une, ben vous la faites, quoi.
C'est ce que dit Louis-Bernard Buchmann aussi, que j'ai interviewé, et qui dit que le temps est tout à fait malléable et que c'est l'année où il a eu le plus de trucs qu'il a été le plus efficace.
Ouais.
Et voilà.
Alors, j'ai un peu de mal à le dire en ce moment, parce que là, c'est vrai que j'ai du mal justement à étendre le temps, mais c'est vrai que oui, ça m'a appris à travailler. Clairement, ça m'a appris à travailler, oui, à peut-être avoir un peu plus le sens des priorités. Oui, enfin, voilà, c'est vrai que ça apprend ça.
Donc un renforcement dans l'envie d'être avocat, ça se poursuit dans votre structure. L'année suivante, droit et procédure, on enchaîne
Voilà.
sur l'association.
Voilà, droit et procédure, mais c'est, enfin, le mandat de président de droit et procédure, c'est beaucoup moins lourd qu'un mandat de membre du conseil. D'abord parce que, alors, membre du conseil ici, si, enfin, je veux dire, vous travaillez aussi en équipe, mais vous êtes vous-même un membre de l'équipe, donc c'est bon. Droit et procédure, vous vous appuyez beaucoup sur une équipe, vous faites beaucoup de choses vous-même, mais vous vous appuyez aussi beaucoup sur une équipe. Droit et procédure a par ailleurs une énorme chance, c'est que droit et procédure a une secrétaire qui est une perle absolue.
Citons cette perle.
Véronique Jandé, qui est la secrétaire dont tout le monde rêve, en fait, et qui est une fille remarquable, et qui est le... Je l'ai dit l'autre jour à celui qui a peut-être vocation à prendre la présidence l'année prochaine. Voilà, je dis, alors, il y a un truc. Il faut soigner bien Véronique Jandé parce que c'est la cheville ouvrière de l'association et c'est une aide de chaque instant. Elle connaît tous les process, elle est aidante, discrète, compétente. Enfin voilà, ça c'est voilà. Et puis c'est une très jolie famille aussi de gens extrêmement bienveillants. Et on s'aime beaucoup, voilà, on s'aime beaucoup.
Combien de temps dure cette présidence ?
Alors, elle peut durer 2 ou 3 ans. La plupart des présidents font 3 ans. Moi, j'ai fait 3 ans. Voilà.
Et en parallèle, votre activité continue à se développer ?
Oui.
Toujours saisie immobilière ?
Oui, enfin voilà, toujours voilà, voie d'ex. À l'époque, encore un peu de succession. J'en fais moins maintenant. Je continue à creuser ce sillon parce que c'est vrai que c'est quand même cette intuition que c'est la niche qui marche, quoi.
Et vous diriez que vos dossiers en proportion, alors on peut, enfin, je sais pas si faire la distinction dans le temps, mais vous diriez que c'est quelle proportion qui vient des confrères, quelle proportion qui vient de l'extérieur, est-ce que vous arrivez à un peu évaluer, estimer?
Alors je dirais peut-être 2/3 d'institutionnels, 1/3 de one shot confrères. Étant précisé que l'institutionnel, il vient aussi un peu des confrères quand même, au départ.
Ouais, non, mais c'est contentieux. Du coup, ça fait partie de ma. C'est un peu dans ma question, ouais. C'est-à-dire les clients vous arrivent par quel biais de recommandation ou par quel biais d'identification ?
Beaucoup les confrères, quoi.
Ce qui est assez logique par rapport au fait que vous vous êtes beaucoup développé dans le dans l'associatif et le collectif dans la profession.
Même si je l'ai jamais fait dans cet état d'esprit, j'allais dire ce qui va sans dire, va encore mieux en 10 ans, mais c'est jamais ce qui m'a animé dans mes engagements. Mais il se trouve que... Mais parce que c'est aussi cette matière tellement particulière. Mais c'est vrai que dans plein de matières, les filles qui font que du droit de la famille, enfin les filles ou les gars, mais en l'occurrence effectivement c'est plutôt des femmes. Et comme hier on avait un webinar avec des consoeurs qui pratiquent le droit de la famille, c'est pour ça que je pense féminin entre guillemets. C'est pareil, c'est des matières de niche. Moi je fais pas de divorce, mes divorces je les envoie à mes consoeurs qui font du droit de la famille.
J'allais vous demander du coup, à ce stade-là, 15, 18, 18 ans d'expérience, comment est-ce qu'on continue à se projeter dans son activité ? Alors, ce que je comprends, c'est que vous avez fini par partir de votre structure pour créer votre Exactement. Structure de niche. Qu'est-ce qui a motivé ce départ ?
Alors, plein de choses.
Au bout de 20 ans de travail ensemble.
Ouais. Peut-être le sentiment, et je pense qu'on a été, enfin d'ailleurs le cabinet a beaucoup bougé à ce moment-là parce qu'on était 10 associés, on a été 4 à partir dans cette période-là.
De pour la des même motifs génération
Ouais. Pour des motifs différents, hein, chacun, enfin on n'est pas parti ensemble, on n'a pas fait une scission, c'est pas ça, mais je pense qu'à un moment on a eu du mal à percevoir la dynamique collective.
Le fameux affectio societatis.
Et chacun nageait un peu dans son couloir. Je pense qu'en fait, on a eu un déménagement qui nous a fait beaucoup de mal parce qu'on était avant sur un seul plateau et puis en fait, on a déménagé dans un immeuble tout à fait sympathique, mais étage par étage. Et du coup, il y avait un pôle par étage. Et du coup, ceux du même étage se voient, mais ne voient pas forcément les autres. Et du coup, je pense qu'on a perdu, de la dynamique collective. À ce moment-là, ça c'était quelques années avant hein, déjà, mais du coup on va dire que c'est peut-être...
C'est consolidé quoi.
Ça s'est un peu consolidé, voilà, je pense que c'est un peu entre guillemets le fruit mûr qui tombe de l'arbre et puis je me suis dit voilà j'avais 45 ans que c'était entre guillemets maintenant ou jamais et c'est vrai en plus qu'il y avait, alors pour ce qui me concerne, moi j'avais un peu le sentiment d'être un village gaulois au sein du cabinet, c'est-à-dire que comme j'étais avec ma matière, mes dossiers qu'au bout du compte, j'avais fini par générer toute seule parce que le fameux contentieux sur lequel j'avais été associée n'existait plus. Oui. Donc, j'ai finalement...
Il y a eu cette traversée du désert assez, avec les bouchées doubles.
Et puis, j'ai remonté mon machin. Et puis, c'est vrai que du coup, j'étais assez portable, en fait, et que le cabinet m'a porté plus vraiment de dossiers. Je leur en apportais pas non plus parce que du coup, moi, du coup, j'ai par un peu instinct de survie, j'ai été obligée un peu de chasser dans mon domaine et du coup, on n'était pas tellement dans le cross-selling. Et c'est vrai que j'ai eu par ailleurs l'opportunité de racheter un petit cabinet. Alors, c'est d'ailleurs pas forcément celui-là que je devais d'ailleurs racheter au départ, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu aussi cette opportunité de reprendre l'activité.
Ce que je comprends, c'est que du coup, il y a eu une première opportunité de racheter un petit cabinet, et puis ensuite une deuxième.
Oui. Alors finalement, il a fallu à un moment. De toute façon, il a fallu faire un choix, puis les choses se font ou ne se font pas. En l'occurrence, il y a eu une évidence. Ça, c'est une jolie histoire aussi de transmission. Donc j'ai eu cette occasion là et c'est vrai que du coup bon, je l'ai saisi et ça a été l'occasion de dire bon je me lance.
C'était une envie que vous aviez?
De quoi? De me lancer?
De vous lancer.
Oui, c'était pas si évident, c'est-à-dire qu'en réalité moi qui suis toujours à jamais vouloir mettre la charrue avant les bœufs et je ne partirai que quand je saurai ce que je vais faire, en réalité j'ai dit que je partais sans savoir où j'allais. Mais assez vite, il est devenu évident que je ne retournerai pas dans un cabinet équivalent à celui que je quittais. La question s'est posée à un moment et j'ai pas eu envie de ça.
Parce que
voilà, je veux dire, après effectivement 13 ans de réunion d'associés, j'avais plus envie de ça en fait. J'avais plus envie. Enfin, justement, l'idée de prendre un peu mon envol, c'était de plus avoir à rendre de compte, quoi. Donc du coup, c'est devenu assez évident que j'allais m'installer, quoi, monter une structure, et voilà. Je suis partie avec une assistante, une collaboratrice.
Et donc ce que je comprends, c'est qu'une opportunité de racheter un cabinet qui finalement n'a pas transformé. Et une autre jolie histoire, en l'occurrence un autre cabinet que vous avez racheté. Comment s'est présentée cette opportunité? Moi, j'aime bien comprendre d'où viennent les opportunités.
Alors, l'idée, c'est que le levier qui me conduit à prendre la décision de partir vient d'une discussion que j'ai avec une consoeur qui exerce dans un domaine à peu près équivalent au mien et qui envisage depuis un moment de me céder sa clientèle. On en parle, on en parle pas mal. Et puis, du coup, un peu ayant ça dans la tête, je vais voir un avocat, avocat ami et assez spécialisé dans ces questions, en disant, écoute, voilà, je me pose des questions, peut-être que je vais partir, est-ce que tu peux m'accompagner sur mon départ, sur éventuellement monter une structure et peut-être sur le rachat de ce cabinet. Et on a ce premier rendez-vous, on discute, parce que moi, c'est vrai que je ne suis pas... Et puis souvent, les cordonniers sont les plus mal chaussés, donc je voulais me faire un peu accompagner là-dessus, savoir et anticiper les éventuelles difficultés qu'aurait pu poser mon départ. Et il me dit, ah tiens, c'est marrant parce que justement, on a une consoeur là, ça fait 6 mois qu'elle discute avec son ex-collaboratrice et puis là, elle vient de la planter, on devait faire le closing demain matin. Elle m'a demandé si j'avais pas quelqu'un d'autre parce qu'elle en a marre d'attendre. L'ex-collaboratrice veut la faire mariner jusqu'à la rentrée, mais là, elle en a marre. Bon, et je dis, qui c'est? Il me donne son nom, je dis, ah bah oui, je la connais, bien sûr. Tu veux que je l'appelle? Oui, ok, vas-y, appelle-la. Bon, il l'appelle devant moi, il lui donne mon nom. Elle éclate de rire, cette consoeur, parce qu'on avait eu effectivement un dossier ensemble. Bon, donc elle savait qui j'étais, etc. Et donc on prend rendez-vous le lendemain matin, la nature ayant horreur du vide et le closing ayant été annulé. Du coup, on se retrouve le lendemain matin. Et on s'entend assez vite bien. Et après, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tout un tas. Alors après, c'est des signes, j'allais dire à la con, c'est jamais à la con, mais enfin, je veux dire, on est...
Moi, je veux tout savoir de
Alors,
ces signes à
bah,
la
vous
con.
Allez voir. On est toutes les deux du 6 avril.
Donc on est vraiment sur ce genre de signe. Voilà. J'adore.
on est toutes les deux filles uniques. On est toutes les deux, elle mariée, pas moi, mais avec un architecte ou quelqu'un qui bosse dans ces métiers-là. On est toutes les deux folles d'Italie.
Gros match.
Une espèce de truc un peu comme ça. On se dit non, mais c'est dingue, mais c'est dingue. Et puis on en a redécouvert après. Enfin bon. On a toutes les deux pas d'enfants, voilà. Bon, donc voilà quelques signes comme ça qui font que, alors bon, c'est
que vous vouliez, quoi.
Oui, ou en tout cas que du coup on se reconnaît un peu sur des choses et qu'il y a cette envie de transmission de sa part. Et
elle, c'est un départ en retraite.
Oui.
C'est un...
oui, okay. Oui. Elle prend sa retraite et voilà, et donc on fait affaire ensemble, et tout s'est passé, et ça aussi c'est des jolies leçons, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup, c'est mon copain Philippe Touzet qui dit ça de temps en temps, parce que du coup je l'avais interrogé sur ces histoires de transmission, et lui il l'avait fait il y a des années de ça, il m'avait dit que son ex-patron lui avait dit, vous savez, dans ces histoires-là il y a toujours un vieux con et un jeune con. J'aime bien l'image parce que ça peut être assez juste, c'est-à-dire le vieux con qui dit mais moi c'est mon cabinet, c'est mon bébé, c'est moi qui ai construit, est-ce que quelqu'un saura aussi bien que moi traiter mes clients, etc. Et le jeune con qui, grosso modo, veut foutre le vieux à la porte. Et nous, avec Isabelle, puisqu'elle s'appelle Isabelle, ça s'est admirablement bien passé parce que, d'abord parce que je pense qu'on a eu à cœur toutes les deux que ça se passe bien, quoi. Elle avait envie, en effet, que ses dossiers soient bien repris, elle a eu à cœur de me présenter ses clients, de faire en sorte que ça se passe bien, et moi j'ai eu à cœur de me rendre entre guillemets digne de sa confiance et puis qu'elle se sente bien aussi, qu'elle se sente pas exclue ou foutue à la porte, et les choses se sont faites en fait très naturellement, elle s'est pas accrochée au-delà du raisonnable.
Ça a duré combien de temps la transition ?
La transition, elle a duré un an et demi, voilà.
Et avec votre ancien cabinet ?
Avec mon ancien cabinet, quand ça a été fini, mais voilà, mais on s'entend très bien.
Oui, non, mais c'est vrai que du coup, j'étais curieuse de savoir, comme vous étiez un petit peu un village gaulois dans le cabinet, comment s'était passée la séparation.
Oh, il y a toujours des petites tensions, mais... bah, c'est-à-dire qu'il faut signer un protocole. Enfin, c'est comme un petit divorce, quoi. Voilà, mais moi, je suis pas quelqu'un du tout du conflit, en fait. C'est bizarre pour un avocat de dire ça, mais surtout quand on fait du judiciaire. Mais c'est vrai que moi, le conflit m'emmerde un peu. J'ai pas envie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que bien sûr, il y a eu des petites tensions, parce que forcément, dans des moments comme ça, il y a des petites tensions. Après tout ce qu'on a fait pour toi, et de l'autre côté, mais à un moment, j'ai le droit de partir. Et bon, donc forcément, il y a des petits feelings un peu comme ça, mais en l'occurrence, pas tant que ça. Et c'est vrai que moi, ce que je retiens, c'est ce que m'a apporté ce cabinet, c'est-à-dire effectivement des relations très très familiales avec toute ma génération, une formation vraiment formidable et la transmission avec Sylvestre. Voilà, moi c'est ça que je retiens. Voilà, j'ai passé très belles années dans ce cabinet, j'en suis très contente. Je suis très contente d'en être partie. C'était un moment nécessaire, c'est juste le sens de la vie en fait.
Et donc, vous rachetez ce cabinet, transition qui dure environ un an et demi, sachant qu'il y a quand même un petit peu ce mythe, enfin je ne sais pas si c'est un mythe, mais cet a priori qui peut vouloir dire que racheter une clientèle, ça ne veut rien dire parce que les clients choisissent bien avec qui ils veulent bosser, c'est etc. Sûr. Ça vous a inquiété ?
Oui, mais compte tenu de la façon dont s'est faite la transmission, je me suis dit, je ne prends pas énormément de risques en fait. Donc, en fait, je pense que je l'ai aussi fait pour me rassurer à un moment. L'histoire a montré que j'en avais peut-être pas tant besoin que ça, ce qui fait que du coup, j'étais assez détendue. Parce que les clients avec lesquels je suis partie, moi, du cabinet, je veux dire, il n'y avait pas de sujet sur le fait qu'ils me suivaient. Les langues se sont aussi un peu déliées, c'est-à-dire que les confrères prescripteurs m'ont dit « Ah, bah, c'est bien que tu t'installes parce qu'on t'aurait bien envoyé des dossiers, mais on avait un peu peur que tes prestigieux associés nous piquent nos clients ». ce qui relevait du fantasme, parce que mes associés n'avaient pas l'œil derrière mon épaule pour savoir ce que j'ouvrais comme dossier et s'ils pouvaient aller piquer le client, etc. C'était pas le sujet.
Non, mais c'est intéressant comme
oui, là aussi comme perception, ressenti, ouais. Exactement. Et donc du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu aussi un appel d'air, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, les dossiers, notamment de confrères, ont continué à affluer et le fait d'être en effet dans cette logique de niche m'a rendu d'une certaine façon encore plus visible, oui.
Et là, ça fait combien de temps ?
Ça fait 3 ans et demi.
Ça fait 3 ans et demi. Et alors ?
Bah alors, super.
Retour d'expérience après ces 3 ans.
Retour d'expérience, ça marche bien. Donc, je suis partie du cabinet avec mon assistante et une collaboratrice avec laquelle je travaillais depuis 1 an et demi. Et maintenant, j'ai recruté 2 autres collaborateurs.
Ah oui, donc ça marche très bien.
Donc ça marche bien, oui.
Félicitations.
Merci.
Et en plus, un départ et une structuration à son compte, à une période un petit peu effervescente d'un point de vue innovation du droit. On parle beaucoup de l'innovation dans la structuration des cabinets, dans la communication, l'entrepreneuriat des avocats, etc. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'agitation autour de ces postures-là. Vous, qu'est-ce que ça vous a... Est-ce que ça vous a accompagné ? Est-ce que vous vous êtes... vous vous êtes positionné comment par rapport à cette dynamique-là ?
Alors, moi, j'ai eu la chance... le fait d'avoir été dans un cabinet structuré m'a... acculturé à ces choses-là, c'est-à-dire à avoir un exercice qui soit pas trop artisanal. Moi, quand je me suis installée, j'ai pas voulu faire d'économie entre guillemets de bout de chandelle, c'est-à-dire que j'ai repris le même logiciel métier que celui qu'on avait au cabinet, en disant j'ai un univers de travail, je le quitte pas. Bon, et du coup, ça nous a permis, et notamment là, on l'a vu pendant le confinement, d'être à la maison comme si on était au bureau, ce qui est quand même extrêmement précieux. Du coup, c'est vrai que, alors, je suis pas enfin une reine entre guillemets de l'innovation, en ce sens que j'ai pas monté une legal tech, etc., etc. Mais enfin, je veux dire, effectivement, j'accompagne le mouvement et je suis accompagnée par le mouvement dans ma pratique professionnelle. Voilà, évidemment. Et je pense qu'il faut aider les confrères là-dessus à démystifier un peu et à s'aider, quoi. À être... Et c'est vrai qu'on est de plus en plus mobile, en fait, maintenant.
Et j'ai quand même une curiosité autour de... Il y a eu un changement de famille entre-temps.
C'est-à-dire ?
Ben, si. Alors, sauf si je suis sur le point de dire une énorme bêtise, mais vous vous présentez au bâtonnat avec la famille plutôt ACE ?
Ah oui, ah non, c'est marrant parce que je le vois pas comme ça en fait. Enfin.
Non, mais je pose le sujet sur la table. D'accord. Sachant que. Donc, comment.
Non, alors en fait, c'est pas une histoire. Pour le coup, c'est pas une histoire de famille, c'est une histoire d'homme. C'est pas une histoire de famille. Vincent, on a siégé ensemble au conseil pendant 2 ans. Hein, quand je suis arrivée moi au conseil en 2009, c'était sous le bâtonnat de Charrière-Bournazel, et j'ai rencontré Vincent à ce moment-là que je ne connaissais pas. Et je vous parlais un peu tout à l'heure de l'ambiance parfois un peu feutrée, des membres du conseil qui s'écoutent, de celui qui va demander la parole pour la 3e fois pour dire ce que un autre a dit 5 minutes avant bien mieux. Bon, il y a ça aussi, alors pas que encore une fois, mais il y a ça. Et Vincent, c'est vrai qu'il a cette espèce d'acuité et de... C'est toujours l'expression que j'utilise, donc là, tout le monde doit en avoir un peu marre, mais de capacité d'indignation intacte. Vincent, il est... Oui, c'est un peu... C'est un révolté entre guillemets, ou en tout cas avec une... Il se laisse pas endormir, quoi. Il s'est jamais laissé endormir, et quand il y a un truc qui va pas, il a la vista, j'allais dire, en tout cas la clairvoyance de le voir et de l'exprimer. Et ça, ça m'a fait du bien, en fait. Et voilà, j'ai trouvé que ça faisait du bien d'avoir quelqu'un comme ça, avec cette clairvoyance. Et qu'il l'exprime. Voilà. Donc, j'ai toujours gardé ce souvenir de Vincent au conseil. Du coup, on a continué à se voir, entre guillemets, de loin en loin. J'ai une énorme affection aussi pour sa compagne, qui est une de nos consœurs civilistes, que j'aime beaucoup et que j'ai toujours trouvé d'une grande douceur et d'une grande classe. Enfin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, il y a toujours eu un, comme ça, cette espèce d'environnement un peu, toujours un peu, enfin voilà, positif, quoi, un peu tendre et voilà. Et puis, il se trouve que quand je me suis installée, alors quand je me suis installée, j'ai été pendant quelques mois dans un cabinet et puis j'ai changé de locaux. Et Vincent est venu s'installer quelques mois là aussi, donc on a partagé un quotidien aussi pendant quelques mois, donc on se connaît. Mais c'est vrai que pour moi, le fait de proposer à Vincent de venir avec moi, c'était pas la CE, c'était Vincent. Alors il se trouve que...
Ce que je comprends, c'est que c'est vous qui lui avez proposé oui. De vous présenter oui. Au bâtonnat.
Oui.
Et du coup, pourquoi ne pas vous être présenté en bâtonnière ?
Je suis candidate au bâtonnier.
Putain, je suis vraiment à l'ouest. Donc là, vous pouvez remarquer à quel point je me suis investie dans cette campagne.
C'est moi qui suis candidate bâtonnière.
Donc vous êtes candidate bâtonnière ouais. et Vincent ouais. et ouais. votre ouais. co-gestier.
Exactement, j'ai proposé.
Désolée.
Non, mais je vous en prie.
C'est bien, on m'apprend sur le tas.
Non, j'ai proposé à Vincent, j'ai proposé à Vincent de venir avec moi et d'être mon vice-bâtonnier.
D'accord. Mais donc je suis encore plus contente de la manière dont j'ai envisagé cette programmation. Parce que du coup, ça fait pas... vice-bâtonnière d'un côté et potentiel bâton... Enfin, voilà, vous me comprenez. Très bien, ok. D'accord, et donc, cela change la perspective de ma question. J'allais dire, qu'est-ce qui a motivé cet élan pour le bâtonnat ?
Alors, là aussi, décision difficile. On est dans un moment où les choses sont quand même globalement plutôt moins distrayantes qu'elles l'étaient. C'était le grand mot de Jean Castelin qui dit oh, c'est distrayant quand il a un truc que quelqu'un a dit, quelque chose. Bon, il dit oui, il m'a dit un truc assez distrayant. Et en fait, c'est vrai que là, c'est moins drôle. C'est-à-dire que c'est moins drôle qu'avant. Mais c'est vrai que j'ai eu un peu le sentiment qu'il y avait peut-être une autre voie à porter. Il vous aura pas échappé que je suis une femme.
Mais du coup non, le boulet.
Et je pense que là on a été dans des combats difficiles. Et c'est vrai qu'on sent que le barreau a besoin d'être un peu rassembler et protéger et c'est vrai que j'ai envie de cette voie-là, c'est-à-dire peut-être de quelque chose d'un peu bienveillant. Alors ça n'empêche pas la fermeté, évidemment, ça n'empêche pas de dire ce qu'on a à dire, ça n'empêche pas de mener des combats, mais je pense qu'il y a peut-être une autre façon de faire.
D'accord, donc une
que de péter la gueule à tout le monde.
Ok. Elle est en train de batifoler des cils en disant ça. Donc une envie de bâtonnat sous le signe du velours.
Non, parce que alors non, parce que ça peut être aussi une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire
que c'est à ça que je pensais quand je parlais du velours.
Oui, c'est-à-dire que effectivement, il faut, il y a évidemment des choses à faire. Il n'est pas question d'être, enfin voilà, on n'est pas dans le monde de oui, hein, non plus, hein, soyons clairs. Hein, bon, mais je pense que la bienveillance c'est important, et je pense que les avocats en ont besoin aussi.
Et alors, j'ai envie de vous demander comment est-ce que vous envisagez à la suite de votre exercice, il y a ce potentiel bâtonnat. Au-delà de ça, maintenant, ça fait donc 25 ans que vous exercez. Comment est-ce que vous vous projetez à la poursuite de votre exercice ?
Alors, l'idée, ça va être... Alors, j'avais besoin, je pense, de me prouver que j'étais capable de... mener ma barque, entre guillemets, et ma boutique comme je l'ai fait depuis 3 ans et demi.
Bon, et ça, c'est prouvé.
Oui, en tout cas, ça va. Il n'y a pas de... Enfin, voilà, il n'y a pas de catastrophe. On est... là aussi un petit environnement familial, n'exagérons rien, mais en tout cas une petite communauté avec mes collaborateurs et mon assistante où on s'entend bien, ils sont très soutenants dans cette aventure bâtonnale. Les collaborateurs m'ont poussé pas mal, donc ça c'est quand même très sympa. En revanche, c'est vrai que moi qui ai l'habitude du collectif, aussi bien dans mes activités syndicales associatives que dans ma, enfin, dans la plus grande durée de ma pratique professionnelle, je me vois pas rester mon propre, enfin, j'allais dire mon propre patron, si, mais je veux dire en tout cas peut-être pas aussi seul, même si je ne le suis pas encore une fois. On a une, c'est une équipe, mais pour l'instant, je suis seule associée du cabinet. Donc j'ai un projet. D'abord, j'ai un projet qui est de faire monter ma collaboratrice. Ça, c'est assez naturel parce que ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on bosse ensemble. Donc voilà. Et puis de m'associer avec un cabinet équivalent au mien. Pour toujours maintenir cette logique de niche qui me paraît importante, mais en étant plus fort, plus costaud.
Donc, avec quoi est-ce que vous avez envie de compléter ?
Alors, le projet, il est work in progress. Hein, le partenaire est identifié. Hein,
oui, mais du coup, voilà. C'est quoi, ça va être quoi le...
Alors, c'est un cabinet...
Le positionnement, j'allais dire.
De droit bancaire. Enfin, voilà, qui a effectivement des banques, qui fait du bancaire et aussi du recouvrement. Voilà, notre positionnement, c'est ça. C'est un cabinet de... immobilier, banque... Voidex.
D'accord.
Patrimoine immobilier, voilà.
Et donc ça, c'est en cours d'exécution, du coup.
Oui, c'est un peu. Alors bon, c'est un tout petit peu entre guillemets en stand-by parce que c'est difficile de mener tout de front et que là, on est quand même très axé sur la campagne. Mais oui, enfin en tout cas,
il
y a une vraie rencontre avec un confrère avec qui on a envie de faire un bout de chemin ensemble. Donc on va.
Et encore une fois, ce confrère, vous l'avez rencontré dans quel contexte ?
Alors je l'ai rencontré parce que lui aussi, il a racheté. Le cabinet d'une consoeur, mais qui bosse toujours avec lui depuis de nombreuses années. C'est elle qui nous a, entre guillemets, présenté.
Qui a joué la marieuse.
Exactement. En me disant, depuis quelques années, voilà, c'est une consoeur que j'aime bien aussi, qui est aussi une figure un peu du palais et de ce milieu-là des ventes immobilières, etc. Et depuis longtemps, elle me disait « Ah, mais il faut que je vous présente mon associé, etc. » Puis effectivement, elle a fini par le faire. Et on a eu un vrai fit avec ce confrère. Et donc, on a assez envie de se rapprocher.
Très bien. Quelle est votre dernière joie ?
Ma dernière joie bonne question. Alors moi, j'ai des joies très simples, en fait. Donc c'est pas là, je vous dis peut-être pas ma dernière joie, parce que comme il fait quand même un temps pourri, c'est bon. Mais moi, c'est vrai que je suis toujours en joie quand, par exemple, je traverse le Pont Neuf à pied. Voilà, quel que soit le temps qu'il fait, il y a toujours quand même une lumière singulière, jamais la même. C'est toujours somptueux. C'est-à-dire que moi, je m'émerveille toujours d'avoir le sentiment de vivre dans la plus belle ville du monde. Voilà, donc ça, c'est des petites joies relativement simples.
C'est très bien. Alors, c'est une improvisation totale et vous avez le droit de me dire non, mais j'ai envie de vous demander si vous pouvez me chanter quelque chose.
J'avais une chanson un peu mythique à la revue sur le « Je ne veux pas travailler » de Pink Martini.
Allons-y.
Et c'était sur le blanchiment d'argent. Alors, faudrait juste que je retrouve le début. Bon, mais sinon, ça donnait je ne veux pas balancer, je ne veux pas balancer. La 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 la. Oui, c'est ça. C'était mon cabinet n'est pas un self-service où le juge pourrait puiser librement. Pourquoi m'accuse-t-il d'être complice de blanchiment ? Je ne veux pas balancer, non, je ne veux pas dénoncer, je veux seulement faire mon métier sans dénoncer. C'était pas exactement ça, mais enfin, c'était à peu près ça.
Je pense que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir envie de s'inscrire à la revue de Jujia. J'ai oublié ma dernière question. Qu'est-ce que vous portez sous votre robe ?
Sous ma robe d'avocat ?
C'est vous qui choisissez.
Qu'est-ce que je porte sous ma robe ? Mon âme ?
Votre âme, très bien. Merci beaucoup, Julie.
Merci à vous.